Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin.
C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité.
Et au féminin.
Je suis beaucoup plus créative avec un cadre que si on me dit « tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi ».
Des gros stocks.
Il fallait que j'accepte de me mettre en danger à quelques moments de ma vie professionnelle.
Les plus petites.
C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire.
Des cuisiniers d'ailleurs.
Donc la cuisine, c'est la possibilité de comprendre le monde et soi-même aussi.
Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis extrêmement contente de recevoir Massimiliano Alagemo.
Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une assiette commence à vivre quand il sort de la cuisine. Si on pense qu'une assiette s'est terminée, c'est la perfection et tout ça, on a perdu la contextualisation et les services, l'entretenement et ce qu'on peut faire arriver aux clients sont des ingrédients très importants qui font part de l'hospitalité et de la cuisine.
Pourquoi Massimiliano? Parce qu'il y a 10 ans, lors d'un festival de gastronomie, je suis tombée sous le charme de ce chef italien. Au-delà du fait qu'il ait été à 28 ans, le plus jeune 3 étoiles au monde, sa vision poétique de la cuisine et sa passion pour la transformation de la matière captivent. Avec Massimiliano, nous avons parlé d'histoire, d'expression et d'eau. Bonne écoute!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Massimiliano.
Bonjour, le Café Stern.
Nous sommes au Café Stern, donc ton restaurant parisien.
Oui.
D'où on entend un petit peu l'ambiance autour, les cuisines.
Oui. Vous écouterez un peu de bruit, un peu des machines à café, un peu de travail à l'extérieur, un peu des clients qui passent.
Je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui, parce que je me souviens t'avoir rencontré il y a pile 10 ans, en 2008.
Il ne faut pas rappeler ça. Hein.
Tu parais toujours aussi jeune.
Le frigo, ça fait des miracles.
C'était un festival à Deauville et j'avais été impressionnée à la fois par ton parcours et ta recette de spaghettis, de fausses spaghettis de mozzarella.
Ah, vous avez une bonne mémoire.
Et ce plat exprime assez bien, j'ai l'impression, la dualité de ton travail qui explore à la fois tes racines italiennes et des techniques avant-gardistes. Est-ce que la technique doit être au service des ingrédients ou le contraire?
Et moi, je dis toujours que la technique, ce n'est pas digérible. Donc, ça veut dire que la technique, c'est tout moyen pour représenter l'énergie et la force de la matière. Et sur ce sujet, moi, je suis dans les ingrédients. Et il ne faut jamais forcer et mettre en avance la technique, à mon avis. Parce que nous, notre nourriture, ça doit être les émotions et la vérité qu'il y a dans la matière. La technique, c'est un moyen pour l'expression.
Alors, j'aimerais revenir à ton parcours. Donc, tu représentes la 5e génération du côté de ta maman à être dans les cuisines. Tu as grandi dans les hauteurs de ravioli et de gnocchi.
Oui.
Est-ce que la cuisine est une affaire de famille?
Oui, la cuisine, c'est quelque chose de très intime pour toutes les personnes. Quand le premier goût que tout le monde y a, c'est le lait de la mer. Et je pense que la cuisine, le premier grand restaurant, c'est vraiment celui-là. C'est notre premier goût. C'est celle qui nous donne une texture surtout et qui nous rend tous liés dans le même goût. Et n'importe quelle religion, n'importe quelle race, n'importe quel sexe, on est toujours imprimé de cette première forme de nourriture. qui c'est une forme de nourriture, de protection, de relaxation.
Est-ce que le fait d'avoir grandi dans le restaurant familial, ça, c'est ça qui t'a donné envie de faire la cuisine ?
Moi, j'ai commencé à 5 ans en jouant avec ma mère à une pâtisserie. Elle m'emmenait dehors de la cuisine pour jouer avec mes frères. Mais j'étais en train de jouer dans la cuisine. Donc, à un certain niveau, elle a compris et m'a laissé jouer avec elle. C'était très amusant parce que j'étais un peu la mascotte de toute la brigade. Donc, il y avait quelqu'un qui me faisait rouler les crêpes et l'autre me faisait sauter la pâte. Il me fermait dans le frigo. Et moi, j'étais au milieu du frigo avec tous les froids et tous les ingrédients dedans. Donc, c'était quelque chose de très stimulant et qui donnait beaucoup d'imagination à un enfant.
Quand est venu le moment de se demander ce que tu allais faire comme métier, tu t'es pas posé la question, tu as foncé direct vers la cuisine ?
Oui, j'étais sûr de faire le cuisinier. J'avais envie d'avoir une veste et le pantalon en chef. Et moi, je jouais aussi un peu à basket. J'ai eu quelques moments où je ne savais pas quoi faire. Mais à la fin, la cuisine,
elle a pris le dessus.
Elle a pris le dessus.
Donc, comment ça s'est passé ? Tu as fait une école ?
J'ai fait une école hôtelière, oui.
À quel âge ?
Non, j'ai commencé à 13 ans parce que j'ai commencé avant l'école. Et on est sorti de l'école et j'ai fait mon expérience, la dernière expérience chez Michel Gérard. Avant, j'ai fait Marvera. Des brefs périodes, après que mon père il est venu me prendre, il m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu prennes la cuisine. Et j'ai dit, mais non, c'est tôt. J'avais 19 ans et demi. Et il m'a dit, arrête, moi, à ton âge, à 20 ans, j'avais 60 employés sous de moi. Tu peux prendre 3 cuisiniers, 4 cuisiniers. Alors moi, j'ai dû faire ça. Et il s'est imposé, mais c'était bien. Il m'avait dit, il ne faut pas trop rouler, parce qu'après, sinon, tu vas perdre ton identité.
Ah, c'est pas mal, ça.
Ouais,
justement, tu parlais de Marc Vera. Tu y es passé à 17 ans, et après, chez Michel Gérard. Quels souvenirs gardes-tu de tes expériences dans les restaurants français ?
Des très belles expériences, complètement différentes. Et Marc, c'est une homme de grande sensibilité, de grande force gustative, instinctive. Et il m'a imprimé une force visuelle dans la cuisine. Il a nous permis de comprendre que la cuisine, ça peut être vraiment une expression. Et Michel Gérard, c'est une roi dans la cuisine, c'est l'élégance, c'est le grand classique, mais avec des grandes innovations aussi. C'est un peu plus caché, mais c'est vraiment un innovateur. Donc c'était un peu le mélange entre la réflexion et l'instinct, si vous voulez, et qui nous ont permis d'avoir une coupe d'œil sur la cuisine française. Et c'était contaminant, c'était une contamination et surtout l'intellectuel intérieur. Voilà.
Est-ce que tu te souviens quel chef tu admirais à cette époque ?
Moi, j'admirais les chefs où j'ai travaillé et je l'admire toujours. Mais il y a beaucoup de chefs aussi. Vous parlez en France ? Vous parlez
partout. Enfin, est-ce que tu te souviens ?
Je me souviens les premières grandes expériences que j'ai eues en Italie chez Gualtiero Marchesi. J'avais 16 ans et je me souviens de toutes les assiettes que j'ai mangées. J'étais à Milan, c'était incroyable, incroyable. Des assiettes qui, si je les mange aujourd'hui, sont toujours innovateurs. Donc, oui, mais après, Aimo Moroni à Milan, toujours. Mais beaucoup de chefs, beaucoup, vraiment. À l'étranger, j'étais toujours touché par les expressions des chefs différentes avec aussi des philosophies pas comparables. Parce que je pense que la cuisine, c'est la possibilité de respirer, de lire les personnes, la matière entre visuels différents.
C'est en 94 que ton père t'a rappelé ?
Moi, j'avais 19 ans et demi, donc oui. Ouais. Ouais.
Donc toi, tu as pris la direction de la cuisine et ton frère aîné, Raphaël, a pris la direction générale.
Oui, dans cette période, il était concentré sur la salle et la cave. Mm-hmm. Et là, on a commencé un grand boulot ensemble. Il était toujours à la recherche de monter. On a fait les premiers voyages en France. Moi, j'avais 16 ans. On a fait un voyage incroyable. Et, 3 jours, on a dépensé tout l'argent qu'on avait. Et on a fait les premières étapes, c'était au Bourésiel, à Strasbourg. Mmh. Après, on a fait Paul Bocuse. Et après, on a fait les Ritz Espadon, toujours ici
en
à Paris.
En 3 jours.
En 3 jours, on a dépensé tout nos... Et, mais c'était le plus grand investissement de notre vie. Parce que là, on a vraiment compris quoi faire. Et il y a un souvenir merveilleux de Paul... qui Raphaël, il a dit, mon frère, il est là, et j'étais vraiment tout jeune. Il a dit, il étudie l'école hôtelière, et alors Paul, il m'a dit, viens avec moi, et il m'a amené en cuisine, moi et lui dans le frigo fermé, tu imagines? Alors, quelle émotion, oui. Et je viens de le dire, ça fait l'année passée, je l'ai rencontré à nouveau, on est allé chez lui à la maison pour le saluer, et j'ai dit, tu te souviens pas ça, mais chaque fois que j'ai un jeune qui vient à un restaurant chez moi, je l'amène avec moi en cuisine.
Dans les frigos.
En rappelant, pas un frigo, parce que maintenant on n'a plus de sel. Mais quand même, on se souvient de ce geste de grande humilité qu'il a fait. Qu'il a ouvert les portes et la compréhension aussi des autres choses. Ce n'est pas seulement les saveurs.
Et qu'est-ce que vous vous êtes dit avec ton frère quand vous avez repris le restaurant, qu'il y avait une étoile
Il avait une étoile, oui. Mmh. On était concentrés de faire un parcours. Parce que dans cette année, en Italie, ce n'était pas évident. Et il n'y avait pas une... Il y avait des grands restaurants, mais pas comme aujourd'hui. Donc, il faudrait comprendre quelle rue faire... Et prendre des décisions.
Quelles ambitions vous aviez?
D'avoir une expression, de faire les, et c'est toujours ça, de faire les restaurants qu'on veut trouver quand on va manger. Ça, c'est toujours notre position. Donc, donner aux clients les mêmes sensations que nous, on veut recevoir. Donc, c'est pas faire un restaurant qui correspondent à les exigences, mais faire quelque chose qui nous corresponde. Donc c'est pour donner une identité.
En 2002, tu as reçu la distinction suprême, on va dire, des 3 étoiles Michelin. Tu étais tout jeune, tu avais 28 ans.
Ouais.
Et tu es devenu le plus jeune restaurateur 3 étoiles au monde.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'a fait?
Les jours après, je voulais changer tu le menu. Chaque chose, ça ne me plaisait plus. Et non, c'était intéressant parce que on était tous les staffs, on était très jeunes. Et c'était une belle responsabilité. On se souvient avec mon frère que les premiers 6 mois, chaque personne qui rentrait dans le restaurant disait « Bon, maintenant on va voir qu'est-ce que vous faites. » Et ce n'était pas évident. Mais c'était une bonne école de travail. Hein. À la fin, on l'avait su comme, pas comme un poids, mais comme une possibilité pour se relaxer, pour faire notre cuisine.
Je crois que j'ai lu qu'on t'avait longtemps appelé le bébé de la cuisine italienne,
ouais.
Du fait de ton jeune âge. À quel moment on t'a pris au sérieux et est-ce que tu as trouvé ta place parmi les autres chefs qui étaient beaucoup moins jeunes?
Non, mais on a toujours eu des très bonnes relations avec tous les chefs en Italie. Il n'y a pas une cuisine italienne, il y a plusieurs cuisines italiennes, et ça, il faut se rappeler.
Est-ce que, du fait de ton jeune âge, tu as l'impression qu'on te prenait moins au sérieux?
Oh non, 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 absolument. Et je pense que, pour moi, c'était la possibilité de me confronter avec des clients, des critiques, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Donc pour moi, c'était la possibilité d'avoir une comparaison. Et on a eu la possibilité d'avoir des clients, des amis qui nous ont donné de très bons conseils ou qui donnaient des critiques intéressantes, peut-être qui nous a fait monter dans la mentalité, nous a fait nous comprendre beaucoup de choses. Et il y a toujours la nécessité d'avoir quelqu'un qui donne son lecture. C'est intéressant, s'ils ont les compétences, pourquoi pas.
Alors j'aimerais citer quelques-uns de tes plafards. Il y a le cannelloni croustillant à tremper dans la sauce tomate.
Et
alors je ne sais pas comment on dit la pizza.
Oui.
Comment tu l'appelles? La pizza revisitée
Oui, avec le G. C'est une étude sérieuse autour de la pizza. On a analysé un peu tous les concepts des procès et des productions d'une pizza. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour soutenir la légèreté et la digérabilité et mettre en évidence les ingrédients. Et sur ça, on a travaillé beaucoup.
Et ça a été perçu par certains Italiens comme de la provocation?
Oui, quand on l'a présenté dans les premiers congrès Identità Golose, quelqu'un, il était un peu énervé, mais non, mais c'est normal. Et c'est bon, c'est normal, mais ça, c'était pas pour dire que la pizza napolitaine, c'était pas bon. Absolument. C'est vraiment le respect sur ça qui nous a permis de faire une interprétation. C'est juste ça. La cuisine, il faut qu'il a des visions différentes. Il faut qu'il, pour donner valeur à une chose, il faut aussi regarder d'un autre côté.
Mais est-ce que tu aimes provoquer et surprendre avec ta cuisine?
Non.
Non?
Non, c'est pas nécessaire. La provocation, s'il y a un jeu, et pour raconter des histoires très importantes, oui, la provocation, ça peut arriver. Mais provocation pour provoquer, c'est pas notre style.
Qu'est-ce qui guide ta cuisine?
Je peux dire que j'aime regarder les yeux de mes clients. Et j'aime que quand ils sortent avec les souris. Ça, c'est un peu notre recherche.
Les éblouir.
Oui, il faut qu'ils vivent l'atmosphère. C'est pas seulement les saveurs, le goût, mais c'est l'ambiance, l'énergie, et la beauté, la recherche de la beauté, de la vraie beauté.
Et qu'est-ce que représente la cuisine pour toi?
La cuisine, c'est une forme d'expression. C'est une forme d'introspective. Donc, je dis toujours à mes clients, le résultat d'une bonne cuisine, c'est aussi la relation des œufs avec l'assiette et la relation avec les autres dans la table. Donc, la convivialité, le partage. Et ralentir, c'est très important pour comprendre. Donc, la cuisine, c'est la possibilité de comprendre le monde et soi-même aussi.
Comme on disait au début, tu as un peu pris le contre-pied des traditions, dans la forme notamment, dans la forme, la présentation de tes recettes, et tu as inventé une nouvelle gastronomie italienne. Est-ce que ça a été facile de trouver ton style?
Je dis toujours que nous, on suive les ingrédients. Donc, on peut dire que le style, c'est toujours dedans. L'ingrédient, c'est bien caché là. Donc, nous, on l'écoute et on suive en fluidité ce message. La représentation de la matière, c'est toujours une grande force, une grande possibilité pour mettre en évidence un côté de la matière. Parce qu'il ne faut pas oublier que la matière, il est déjà complet, il est déjà à la perfection. Donc quand on la touche, quand on commence à faire la cuisine, on peut dire qu'on a déjà perdu, l'harmonie de la matière. Et c'est la seule possibilité qu'on a, c'est de mettre en valeur un petit morceau de cette beauté. Parce que sinon, si on prend une pomme, c'est déjà complet. Il y a tout dedans, il y a toutes les possibilités des textures, des saveurs, des parfums. Il y a la peau, il y a les pépins, il y a les joues, il y a les pectines, il y a n'importe quoi dedans. Et quand on commence à étudier, toucher, couper, c'est déjà une forme de cuisson qui un peu va on va couper la matière, on va perdre un peu les valeurs de son identité, mais c'est la seule possibilité qu'on a pour représenter un petit morceau de la beauté de la matière. Donc sur ça, c'est un peu comme les photographes. On va photographier des petits morceaux, on va mettre en évidence, on va dilater pour regarder bien dedans. C'est la seule possibilité qu'on a pour comprendre la matière, à mon avis. Sinon, là, il faudrait avoir une sensibilité qui les hommes, à mon avis, ne peuvent pas arriver à comprendre.
Et à part les produits, qu'est-ce qui t'inspire ?
La cuisine, ce n'est pas une chose seulement. Il y a un côté historique, il y a un côté scientifique, il y a un côté géographique, il y a un esthétisme, il y a une spiritualité, il y a beaucoup de choses, mais tous ensemble, ils représentent quelque chose de très important. Et à mon avis, la matière, c'est un réflexe microscopique d'un univers beaucoup plus grand qu'il est dessus, qui nous veut raconter quelque chose.
Est-ce que tu as la création facile ? Les plats, ils te viennent vraiment facilement ?
Mais le mot création, je pense qu'il n'appartient pas aux hommes. Je pense que la matière se représente bien quand on a une bonne intention de l'écouter.
Il faut être ouvert.
Ouais.
J'ai lu que l'eau était primordiale dans ta cuisine.
Oui. Et on a fait beaucoup de recherches autour de la liquidité, la profondeur et la légèreté. Tout ça, ils sont concentrés dans un mot que nous, on appelle la fluidité. Donc, c'est un peu comme se laisser nager dans un parcours qui l'eau fait nous suivre. Vous savez, l'eau, il n'a pas, c'est pas contenible. Elle n'a pas une forme, mais elle va toujours où il y a la route. Et l'eau, il a une grande mémoire. Et dans la cuisine, si on peut faire un expériment, si vous voulez, on va mettre une petite trace de café dans un verre d'eau et vous allez amplifier toutes ces caractéristiques. Tu vas sentir s'il y a des problèmes, s'il y a des grands parfums et tout ça. Donc avec la diluition, on a un potentiellement. C'est un principe homéopathique, mais qui, en cuisine, on les voit toujours. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'eau parce qu'on recherche cette profondité, on recherche la légèreté pour enlever l'esprit.
Et la fluidité, justement, dont on parlait, tu as intitulé ton deuxième livre
oui.
Avec ce mot.
Oui, et on a fait une chose très intéressante, qui c'est une représentation photographe réelle avec de l'eau. Donc on a fait avec Sergio Coimbra une set photographe avec l'eau, et on mouvait l'eau dessus de l'assiette, et on a fait plusieurs photos sur chaque assiette, pour voir comme l'eau dessinait l'assiette aussi. Et c'est très intéressant de voir les cadres qui sortaient dehors, parce qu'il y avait la matière qui commençait à se bouger et dessiner. Et il y a c'est très intéressant, ce sont devenus un peu des peintures qui nous a un peu contradistingués sur la représentation de notre style.
C'est assez c'est pas commun, un chef qui cite la fluidité dans les éléments importants de son travail. Qu'est-ce que ça exprime exactement ?
Mais vous savez, nous, on est composé pour la plupart de l'eau. On est dans l'eau. Et moi, quand je me prends en douche, j'apprécie beaucoup l'eau qui me tombe. Et une fois, j'avais une staff pour des reprises à la machine et des photographes avec moi. Ils m'ont donné une machine à photographe. Il m'a dit, tiens, si tu veux, parce que j'ai vu une machine différente. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, ah non, c'est une machine caméra qui peut aller dans l'eau. Vous pouvez la couvrir avec n'importe quoi. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me la prêter pour quelques minutes. Oui, absolument, tu fais ce que tu veux. D'accord, merci. Alors, je suis allé en cuisine, on a mis la machine dans un pot et on a commencé à jouer un petit peu. On a mis deux gouttes d'eau qui tombaient dessus et on a répété tout ça. Après, quand on a regardé les images, on a mis des petites gouttes de safran, mis des poudres de glisse, on a joué un peu. On a regardé les vidéos, il n'y avait pas audio, mais j'entendais les gouttes. Je voyais les gouttes et j'entendais. Et c'était très lié au battement cardiaque. Alors moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors j'ai dit à mon assistante qui travaillait avec moi, j'ai dit, s'il te plaît, regarde ça et dis-moi qu'est-ce que tu sens. Elle a eu la même émotion. Alors on a réfléchi autour de ça, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est un dialogue qu'on a avec l'eau, une compréhension qu'on a de l'eau, et qui peut-être c'est des mémoires implicites qu'on a enregistrées dans notre passage fœtal. Et sur ça, on a réfléchi beaucoup et après, on a commencé à faire cette représentation et tout ça.
Des fois, dans ta cuisine, tu sembles osciller entre les anciens et les modernes. Est-ce que tu as choisi ton camp?
Et j'aime pas les définitions parce que quand on définisse, on met des limites, on met un périmètre. Je pense aussi qu'il faut clarifier des mots. Quand on parle de tradition, la tradition, c'est une... quelque chose que tu donnes, on dit una consegna en italien, c'est pas comme on dit en français, consegna, c'est quelque chose que tu donnes. Donc c'est une réponse étymologique à la parole qui, je pense, qui dans les années s'est perdu le vrai sens de la parole tradition. C'est un peu une contradiction. Donc on peut dire que la tradition, c'est vraiment quand on respire quelque chose qu'on n'a pas décidé d'avoir et qui en transmettre. Et sur ça, ça peut être un plat de tradition, quelque chose qui c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui amène avec lui toute une sédimentation qui vient avant. Il n'y a pas la possibilité de faire une assiette qui ne considère pas le passé. Il peut les considérer, avoir l'envie de les représenter pas, mais quand même se considérer. Donc, je ne peux pas dire dans quel coin je suis. Je peux dire que je considère ce qu'il est le passé et je veux considérer surtout ce qu'ils ont fait, les grands hommes qui sont passés avant. Et sur ça, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on oublie beaucoup parce qu'on court beaucoup et on est très lié à les nouveautés. Mais la nouveauté, c'est pas vrai que c'est toujours bon. La nouveauté, c'est si c'est nouveauté pour être nouveauté, et ça nous porte rien. Donc il faut respecter. Le respect et le respire et l'intention sont les choses plus importantes.
Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine?
Oui, j'aime pas tout ce qui sont les pas naturels. J'aime pas et je veux pas qu'ils rentrent dans ma cuisine.
Quel est le plat dont tu es le plus fier?
On a beaucoup d'assiettes qui ont été liées. Peut-être une assiette, c'est très important pour nous, c'est les risottos safran et réglisse, parce que c'est une assiette qui nous ouvre les yeux sur la matière, sur les sens de la matière et sur la relecture. La relecture, pour nous, ce n'est pas la projection. On peut comprendre qu'est-ce que l'assiette veut nous dire. Donc, il y a la réglisse, qui c'est une racine, et il y a le safran, qui c'est la côté plus haute de la plante. Ça, donc, l'une, c'est dans le soleil, dans la lumière. L'autre, c'est dans la côté ténébreuse, celle qui c'est sous terre. Donc, dans l'assiette, on a un peu l'inversion, et on a ce concept de la lumière, qui quand la poudre noire ténébreuse touche la lumière, change la couleur, et ça devient un peu doré. Donc, autour de ça, il y a beaucoup de réflexions qu'on a faites. On a aussi des réflexions gustatives qu'on a faites avec les réactions tactiles et des salivations qui sortent pour l'acide glycélétique qu'il y a dedans, pour l'anéthol et tout le côté rafraîchissant dans la bouche. Mais ça, c'est la relecture. Donc, cette assiette, un peu, c'est une... une des assiettes que j'ai dédiées à ma femme, qui c'est de la Calabria. Et c'est un peu notre concept de la lumière, de la fraîcheur, de la... et de comprendre tout ce que la matière veut nous raconter.
On a une petite tradition dans ce podcast. C'est une interview dans l'interview, beaucoup plus légère. C'est des questions pour répondre rapidement.
Ouais,
ton âge ?
Et bientôt 44.
Ton signe astrologique ?
Taureau.
Ton plat signature ?
Pain et l'huile.
Ton plat préféré à manger ?
Pain et l'huile.
Le chef que tu admires le plus ?
Il y en a plusieurs, vraiment. Je ne peux pas dire un. Peut-être la plupart des chefs que j'adore et sont représentés en Italie, mais pas seulement en Italie.
Ton ingrédient préféré ?
L'eau.
Ton ingrédient détesté ?
Tout ce qui c'est industriel.
Ton ustensile fétiche ?
La cuillère.
Ton dernier meilleur repas ?
L'autre soir.
Où ?
On a fait...
Hier soir ?
L'autre non. soir, on non. a fait une très belle dîner. Clambar.
Le resto que tu aurais aimé ouvrir ?
Larry's Bar.
Le meilleur compliment que l'on t'ait fait ?
Ah oui, il y avait un client qui est venu manger chez moi. Et à la fin du repas, il a dit oh, « C'était tellement bien que j'avais envie de me lever les chaussures.
» Et la pire critique ?
Ah oui, oui, c'est bon, tu peux bien améliorer.
Alors, est-ce que tu te sens plus cuisinier, chef ou restaurateur ?
Restaurateur. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une assiette commence à vivre quand il sort de la cuisine. Si on pense qu'une assiette s'est terminée, c'est la perfection et tout ça, on a perdu la contextualisation et les services, l'entretenement et ce qu'on peut faire arriver aux clients sont des ingrédients très importants qui font part de l'hospitalité et de la cuisine. Donc je pense que je me sens beaucoup restaurateur.
Justement, ton frère, je crois qu'il a une phrase dessus, il dit que c'est le restaurant est une expérience multisensorielle.
Oui, absolument.
Et
pour la recherche des 16e
sens.
Et
à quel pourcentage tu estimes que la cuisine compte dans ton restaurant ?
Notre restaurant, elle travaille sous l'hospitalité. Donc, il vient chez moi pour manger, ça c'est sûr. Donc, la cuisine, c'est très important. Mais la cuisine, pour moi, il a une valeur qui s'est partagé avec les services, avec l'atmosphère, avec toutes les études et détails.
Surtout que vous avez...
Les détails, ça veut dire les parfums, ça veut dire la température, ça veut dire les matériels de la table, les touches, la devise des salles, les souris des clients aussi. Et donc c'est vraiment...
Tout est très important.
Oui, ouais. Chaque détail, mais vraiment chaque détail.
Le détail est presque... Enfin, il compte.
Les détails sont quelque chose où on travaille chaque jour, on est toujours arrière, parce que les détails sont vraiment beaucoup. Mais l'intention, c'est la chose plus importante.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ?
Ah, j'ai pas encore entendu cette force. Non, vraiment. Hein.
Tu te sens pas chef ?
Des fois cuisinier.
Ouais.
Je me sens des fois cuisinier. Ouais.
Quand tu es dans ta cuisine, au calendre, avec
oui,
toute ton équipe.
Avec mon équipe, c'est une grande équipe et j'adore travailler avec eux. Et c'est toujours, j'aime avoir une atmosphère très jouante, très, très frais, très légère. Et je pense que ça, on la transmet.
J'allais te demander quel genre de chef tu es.
Il ne faut pas être un chef client, il ne faut pas être très dur pour moi. Il faut donner aux autres la possibilité d'être soi-même. Donc oui, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dire. Mais il faut faire comprendre pourquoi. Il faut donner une vision.
À quoi ressemblent tes journées aujourd'hui ? Est-ce que tu cuisines, tu touches des casseroles tous les jours ?
Oui, absolument.
C'est important.
J'ai besoin, ouais. J'ai besoin de sentir la matière, d'écouter, de toucher, de goûter. Oui. Mais je respecte aussi les chefs qui ne touchent pas la casserole, mais qui pensent à la cuisine. Chacun il a son méthode.
Est-ce que tu as besoin de te sentir bien pour cuisiner ?
Oui. Pour faire la cuisine, il faut, à mon avis, être... il faut rechercher un peu de tranquillité. Il faut chercher une pensée libre.
Est-ce que tu sens les jours où tu es moins en forme,
oui,
de mauvaise humeur,
ouais,
ça influe,
ouais. se passe. Et là, il faut se concentrer pour chercher de trouver la juste énergie. Et surtout, on a la possibilité de s'appuyer aux autres. Ça, c'est très important.
Au Calandre et dans tous vos autres restaurants, vous travaillez en famille?
Oui, c'est une famille élargie. On a plus de 200 employés, donc c'est une belle famille.
À la tête, c'est toi et ton frère?
Oui, il est à la famille en tête.
C'est comment de travailler en
frère,
famille?
Oh, c'est magnifique. Mon frère, c'est l'administrateur. Et on travaille très bien ensemble. Il y a ma sœur aussi, mon père, ma mère. Et les staffs, on a tous nos chefs, nos maîtres qui sont beaucoup de temps qui travaillent avec nous, où on est vraiment très liés.
J'ai regardé le menu du Calandre.
Ouais.
Et il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est assez rare. C'est il y a un menu qui porte ton nom et un menu qui porte le nom de ton frère.
Ouais.
C'était important de le faire.
Mais là, c'est on a donné ces trois noms parce que nous on change tous les saisons les menus et j'ai trouvé que c'est une bonne solution de représenter les noms des différents menus. Il y a les classiques, les Raf et les Max pour nous représenter. Mais ça veut dire pas que le Max c'est moi et Araf c'est lui. C'est un peu des influences, c'est un peu un côté philosophique si vous voulez, mais quand même qui nous représente.
Parce qu'on met souvent en valeur la personne du cuisinier dans le restaurant, moins la personne qui est en salle ou
pour
voilà,
nous,
à la direction générale.
L'hospitalité, donc c'est pas seulement la cuisine, je vous ai déjà dit. Et aussi Raphaël. Il est quelqu'un qui donne aussi à la cuisine, c'est pas qui nous on est fermé dans chaque barrière. On a toujours des très bons échanges.
Ce menu, c'est une façon aussi de mettre en avant l'autre partie, votre association.
Oui, notre association, nos goûts. Par exemple, on va des sorties dans les nouvelles quadrilles à Venise, une menu qui c'est un peu les rapports de Raphaël à la table. Et lui, il aime manger avec beaucoup d'assiettes devant et toucher un peu tous. Et il a toujours un peu les limites du temps parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il doit travailler, regarder, peut-être confronter avec des autres personnes qui ont différents goûts. Donc, il aime faire ça dans la table. Et on a étudié un menu qui s'appelle les quatre atti, comme dans les théâtres. Et où on a chaque acte sont les hors d'œuvre et sont les premiers plats, les plats de consistance et les desserts. Et chaque étape sont la représentation des 4-5 petites assiettes qui vont dans la table. Donc ça, c'est par exemple une menu qu'on a dédié à lui et comme son style de vivre la table en cette période.
Vous êtes à la tête d'un empire aujourd'hui? Il y a donc le Calandre à Padoue, il Calandrino, le Café Quadri à Venise, sur la place Saint-Marc, la Montecchia,
oui.
Hameau à oui. Venise, dans l'ancienne poste, une entreprise de catering, une boutique d'ingrédients,
oui.
Le Café Stern à Paris, où l'on oui. est aujourd'hui. Est-ce que c'était une nécessité économique ou un plaisir, une envie de se...
Non, si c'était une nécessité économique, on avait fait des autres choix. Parce que chaque restaurant qu'on a fait, c'est vraiment une expression différente. Et notre focus, c'est pour donner une visuelle italienne, de cuisine italienne, qui a un style, une identité, et qui prend les rapports dans l'ambiance où il est. Et notre centre de recherche, c'est toujours Calandre, Padoue, qui nous permet de penser tous les menus, toutes les propositions aussi des pâtisseries, et avec une philosophie. Donc cette déclination, c'est la possibilité aussi pour nous de pas faire seulement les restaurants gastro-Calandre, mais de penser à des autres endroits avec des autres formules. Par exemple, nous permet de faire des propositions dans la pâtisserie, le café du matin avec un croissant à l'huile d'olive ou une quelque chose de très léger qui rentre dans la philosophie avec des très grands ingrédients, avec beaucoup de goût. Et c'est la possibilité de donner à quelqu'un de dépenser 4 euros, 5 euros et avoir une petite expérience chez nous. Donc c'est ça un peu.
Donc tu as 3 étoiles. Le restaurant est classé parmi les meilleures tables du monde. Est-ce que tu crois au prix et au classement ? Est-ce que c'est important ? Ça apporte une visibilité mondiale ?
Oui, et vous savez, tu sais qui c'est un peu le classement. Aujourd'hui, c'est la possibilité de donner une vision, surtout à l'étranger. Mais on cherche toujours de penser à ce qu'on fait, pas lié vraiment au classement, mais faire toujours notre
vision.
Oh. Oui, c'est notre vision. Donc, rechercher de faire ce qu'on veut faire vraiment. Et pas suivant les tendances, mais faire ce qu'on veut faire. Et regarder comme ça passe, si le message ça passe ou pas. Après, le classement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, en respect, mais chacun, il fait son boulot. Voilà.
Et c'est important, la visibilité mondiale, pour faire venir...
Mais bien sûr, c'est très important et c'est la possibilité d'arriver à quelqu'un qui peut-être c'est loin, qui ne nous connaît pas. Et donc c'est ça qui... C'est pas évident, hein. On n'aurait pas la possibilité d'arriver de l'autre côté du monde pour avoir des clients extraordinaires comme il arrive aujourd'hui.
Surtout que vous êtes situé dans un coin...
Oui,
pas toujours sexy.
Oui, c'est pas Paris. Hein,
Non, vous êtes dans la banlieue, on va dire, de Padoue.
Oui, c'est tout ça. À côté de Padoue, mais c'est pas Paris, c'est pas Venise. C'est...
Faut venir.
Et là, on joue vraiment le contraste. Là, moi, j'adore ça parce que c'est vraiment le contraste.
Vous avez jamais été tenté de déménager ?
On avait pensé, mais après, on a réfléchi beaucoup et on a décidé de rester là-bas parce que là, il y a nos racines. Là, il y avait les grands-parents qui travaillaient et c'est un peu quelque chose de famille qu'il faut garder et protéger.
Avant-dernière question.
Ouais.
Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui ?
On a toujours soif de comprendre et connaître le monde et nous-mêmes. Donc, c'est toujours ça qui nous fait courir.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Donc l'interview touche à sa fin. Il est bientôt midi et on a faim.
Ouais.
Est-ce que tu as une recette à nous donner, une recette vraiment simple qu'on pourrait faire à la maison, que tu fais à tes enfants, à tes filles?
Ouais. Alors je vous propose quelque chose de très compliqué, mais compliqué dans l'esprit de le faire. Et c'est ce que je vous ai dit en avant, donc le pain et l'huile d'olive.
Mm-hmm.
Ben, ici à Paris, c'est très facile parce qu'on trouve des très bons pains, un pain au levain, un peu intégral, donc complet. Des grands formats, parce que les petits formats n'ont pas le même goût, c'est un peu comme les champagnes, il faut qu'il développe son parfum, ses saveurs dans la quantité. Donc si vous avez un pain de 3 kg, c'est mieux. Il faut une huile d'olive, je préfère les siciliennes dans cette période. Il faut avoir une table en bois, une très belle compagnie. Se laver très bien les mains, couper les pains à la main, les partager en regardant entre les yeux et boire un bon coup de vin.
Merci Massimiliano.
Merci, merci à vous.
Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Calandre à Padoue, son vaisseau amiral, au Café Stern dans le Passage des Panoramas à Paris, au Café Quadri à Venise ou dans un de ses autres établissements dont vous trouverez l'adresse sur son site alajmo.it. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.